Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Xavier Leroy, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un ouvrage qui paraît aux éditions Odile Jacob et dont le titre est « Déchiffrement des hiéroglyphes à l'ADN ». C'est un collectif et ça fait référence à des contributions qui ont lieu dans un colloque au Collège de France. Alors, ce livre est réalisé sous votre direction ainsi que celle de M. Dominique Charpin. Dominique Charpin, lui, est professeur au Collège de France. Et vous, Xavier Leroy, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Sciences du logiciel. Et vous êtes spécialiste des langages informatiques et outils de programmation. Alors, votre parcours de chercheur s'enrichit désormais d'une nouvelle reconnaissance avec votre élection récente à l'Académie des sciences, c'était en 2023, donc félicitations. Cet ouvrage donc célèbre le bicentenaire de l'événement suivant, c'est que le 22 septembre 1822, Jean-François Champollion achève sa lettre à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres de Paris, où il explique comment il a percé le mystère des hiéroglyphes égyptiens et il livre donc le texte fondateur de ce déchiffrement. Alors, je m'adresse à vous pour que vous nous donniez votre regard de mathématicien, d'informaticien et sur que vous expliquiez à l'aune de votre savoir ce que signifie un déchiffrement. Dans le mot déchiffrement, il y a le mot chiffre. On code, on décode. Alors, je vous laisse la parole.
Oui, donc j'ai été effectivement séduit par le thème qui nous avait été proposé pour ce colloque. Bien sûr, ça part de Champollion et de sa découverte, que vous avez rappelé, qui a joué un rôle considérable pour structurer les études sur les mondes anciens et les écritures anciennes. Mais pour moi, ce thème du déchiffrement résonne avec bien d'autres choses. Donc effectivement, retrouver les langues anciennes dont on a perdu la trace à partir de peu de documents, mais c'est aussi, comme vous l'avez mentionné, le lien possible avec tout ce qui est chiffrement au sens de la cryptographie, c'est-à-dire cacher des messages pour les rendre illisibles à quiconque n'a pas la clé pour le déchiffrement. Et donc ça, c'est une technique historiquement importante et qui joue un rôle important dans l'informatique contemporaine. Beaucoup de nos échanges, notamment sur Internet, sont chiffrés de cette manière pour garantir la confidentialité et puis aussi l'intégrité, que quelqu'un ne peut pas les modifier au passage. Et donc, il y a d'ailleurs des liens tout à fait intéressants entre le déchiffrement des langues anciennes et le déchiffrement, le cassage des codes secrets. Et puis, ce thème du déchiffrement m'a aussi fait réfléchir à d'autres types de messages que l'on peut recevoir et qui ne sont pas toujours très clairs. Je pense aux messages qui viennent de la nature, les résultats d'expérience, les observations que l'on peut faire, par exemple astronomiques, sont pas toujours faciles à interpréter. Il y a cette image naïve ou scolaire de l'expérience scientifique. Si le papier pH est rouge, c'est que c'est acide. Si c'est pH, s'il est bleu, c'est que c'est basique. Ou le test antigénique, une barre c'est bon, deux barres c'est contaminé. Et ça, c'est pas vrai. Je veux dire, la plupart des sciences expérimentales et des sciences de l'observation, comme l'astronomie, les signaux envoyés par la nature sont très très faibles et demandent énormément de travail de déchiffrement pour comprendre ce qu'ils signifient réellement. Un exemple, c'est de notre collègue Jean Weissenbach, sur l'ADN, On a découvert assez tôt ce qu'était la molécule d'ADN et qu'elle était présente dans toutes les cellules des organismes vivants. Et il a fallu plusieurs étapes de déchiffrement pour comprendre que l'ADN, ça code des protéines et que ça aussi, ça code son propre, ça contrôle son propre mécanisme de reproduction. Quel est le mécanisme de reproduction, d'expression de l'ADN? Comment sont construites les protéines? À quelles conditions ces gènes s'expriment, etc. Donc tout ça, c'est un véritable déchiffrement d'un message ou d'un langage issu de la nature. Et c'est quelque chose qui nous concerne aussi beaucoup, nous les scientifiques.
Alors, il y a quelque chose qui est absolument vertigineux, c'est l'idée du code du langage pour le nouveau-né. Il est assailli par mille impressions in utero, et même quand il est nouveau-né, c'est hors utérus, des sons, des odeurs, des visions fugitives, etc. Et puis, il y a cette voix humaine qu'il préfère, il semble réagir plus favorablement par rapport à la voix humaine qu'à un bruit de cloche ou à même autre chose. On soulève l'idée qu'il y a un instinct Darwin. Darwin soulève cette idée, propose qu'il y a un instinct de décodage du langage, qu'il y a une sorte de vocation pour l'humain à comprendre, à pratiquer la langue humaine, le langage humain. Il y a aussi ce côté passionnant de comment décoder, j'utilise le mot déchiffrer, par rapport à ce que nous avons comme résultat, comment déchiffrer l'origine du système solaire ou bien le fond cosmologique. Il y a mille et une façons qui sont... qui permettent de déchiffrer. Et alors, il y a le logiciel. Qu'est-ce qu'un logiciel et comment peut-il aider à décoder, voire encoder certains systèmes?
Alors, le logiciel, c'est effectivement tous les programmes qui tournent sur nos ordinateurs. Alors, ça peut être nos ordinateurs de bureau, ça peut être les serveurs qui sont dans les centres de données. Et puis, de plus en plus, c'est dans les objets du quotidien aussi. Il y a énormément de logiciels dans les voitures, dans tout ce qui est transport en particulier. Et c'est ce qui contrôle les systèmes informatiques. Et là, on fait faire de préférence ce qu'on veut. Parfois, il y a aussi des erreurs dans la programmation des logiciels ou leur conception, donc le fameux bug. Mais donc, à l'origine, effectivement, le logiciel, c'est ce qui permet à un ordinateur de faire des tâches particulières. Et il y a cette force incroyable qui est que sur un même hardware, un même ordinateur, on peut faire tourner toutes sortes de logiciels différents, ce qui rend l'ordinateur extrêmement flexible. Et réutilisable dans de nombreux contextes. Alors, pour reprendre certaines des choses abordées dans le colloque, donc effectivement, alors déjà il y a du logiciel qui sert beaucoup pour l'analyse de ces données souvent faibles issues de la nature, des sciences expérimentales, des sciences de l'observation. L'exemple de l'astronomie et l'astrophysique est absolument passionnant. Les signaux qu'on reçoit sont extrêmement faibles, hein, même avec les plus grands télescopes dont on dispose. Par exemple, la contribution d'Alessandro Morbidelli dans le livre parle de la planétologie, donc l'étude des planètes, des comètes et autres objets qui ne sont pas des étoiles. Et alors on arrive à détecter effectivement des exoplanètes, des planètes qui ne sont pas dans le système solaire, qui tournent autour d'autres étoiles, mais c'est un signal extrêmement faible, d'accord ? La planète passe devant son étoile et baisse très légèrement sa luminosité, et il faut en fait observer pendant de très longues durées, et puis faire une analyse extrêmement poussée des signaux qu'on reçoit pour pouvoir conclure que oui, c'est bien une planète, c'est pas juste un petit défaut dans le télescope ou une perturbation dans l'atmosphère etc. Donc là, la puissance des calculs, la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui avec l'ordinateur est absolument essentielle. Après, l'ordinateur aussi, c'est une machine à traiter les informations et à les transmettre. Et bien sûr, beaucoup de nos transmissions sont chiffrées pour les protéger et de nos données. Donc il y a aussi tout un tas de logiciels donc issus de la cryptographie cette fois-ci qui met en place ces schémas de chiffrement, de déchiffrement et qui ont atteint des performances absolument remarquables. Maintenant, on chiffre et on déchiffre au vol, pratiquement sans ralentissement des communications, alors que, je sais pas, il y a un siècle, dans les armées, par exemple, communiquer par radio en chiffrant ces messages, c'était un processus extrêmement pénible et lent et qui nécessitait l'expertise d'un officier du chiffre. D'accord. Donc, l'ordinateur, c'est aussi ce qui a permis aux techniques de chiffrement de devenir utilisables par tous et au quotidien.
Alors, il y a aussi, vos travaux portent sur les langages de programmation et les compilateurs, leur fiabilité et leur sécurité. Vérification des logiciels critiques. Qu'est-ce qu'un logiciel critique ? Est-ce qu'il est dans un état critique ? Ou bien est-ce qu'il a, ou bien est-ce qu'il a une possibilité de comprendre, d'aller dans les détails, comme vous avez dit, et de définir l'erreur par rapport à ce qui est quantifiable ?
Alors, on parle de logiciel critique quand l'erreur n'est pas permise. Par exemple, des vies humaines en dépendent. Quelques exemples, c'est le logiciel qui contrôle les métros sans conducteur, par exemple, ou qui contribue au pilotage des avions, ou qui surveille les centrales nucléaires, les usines chimiques de type Seveso. C'est le logiciel qui tourne dans des équipements médicaux, comme les pacemakers, par exemple. Et là, l'erreur n'est pas permise dans le logiciel. C'est en ce sens qu'il est critique, c'est-à-dire que s'il plante, s'il y a un bug, quelqu'un peut mourir ou souffrir considérablement, ou des infrastructures économiques majeures peuvent s'effondrer, etc. Donc c'est critique au sens l'erreur n'est pas permise. Et effectivement, donc la vérification formelle de logiciels, c'est une des techniques qui aide à s'assurer que les logiciels critiques n'ont pas de bugs, sont fiables et vont bien remplir la mission pour laquelle ils sont programmés. Et donc, ça s'oppose à des techniques plus empiriques comme le test, où essentiellement on essaye le logiciel dans plein de configurations différentes et pour voir s'il réagit correctement. Donc ça, c'est assez efficace pour trouver la plus grande partie des erreurs, mais ça ne garantit pas en fait qu'il n'y en a aucune. C'est très très difficile d'explorer toutes les configurations possibles d'un logiciel, leur nombre est énorme. Et donc ces techniques de vérification formelle sur lesquelles je travaille, ainsi qu'un certain nombre de collègues, c'est complémentaire et ça consiste plutôt à étudier le logiciel un peu comme si c'était une définition mathématique.
Et utiliser
des techniques de raisonnement, des techniques de déduction, des techniques de démonstration pour établir que dans toutes les configurations possibles, le logiciel fait ce qu'il faut. Et c'est un lien très, très intéressant entre informatique et programmation d'un côté, et puis mathématiques et logique mathématique en particulier de l'autre. Les outils que nous utilisons sont tous issus de la logique mathématique en fait.
Alors, on peut évoquer aussi ces logiciels que l'on peut placer, qui équipent certaines cartes à puce. Par exemple, dans les métros sans conducteur, on peut évoquer aussi une voiture sans conducteur. C'est le travail de la technologie dans le transport à venir. Et aussi, vos travaux sur ce langage qui fait rêver au OCaml, désormais utilisé dans la recherche, ainsi que dans de nombreux sites industriels, dans la finance, la sécurité ou sur le web. Alors, ces logiciels, et puis peut-être oser parler de l'intelligence artificielle, donc ça donne lieu presque à une poésie scientifique, ça fait rêver. Quand on pense à ces métros qui circulent sans conducteur, l'éthique de ce logiciel, quel est son cahier de charge, parce que c'est quand même très très grave.
Alors oui, c'est un exemple de logiciel qui a des responsabilités énormes. Et donc le cahier des charges, qu'on appelle la spécification, il est en deux parties. La première partie, c'est ne pas faire de mal. Et donc, c'est garantir à tout instant une distance suffisante par rapport au train qui est devant et au train qui est derrière. D'accord. Donc, c'est vraiment réguler la vitesse du métro pour être sûr qu'il ne peut pas y avoir de collision entre deux métros et qu'il y a toujours une distance suffisante de séparation entre les rames. Donc ça, c'est un problème qui est relativement simple, enfin si j'ose dire. Au moins, c'est assez facile de définir les critères. Et après, donc il faut les assurer, bien sûr. Et ça demande donc une programmation extrêmement soignée et une vérification très très attentive de cette partie du code. Après, il y a une deuxième partie de la conduite automatique qui, elle, est moins critique, mais aussi plus complexe, qui consiste à faire une bonne conduite, c'est-à-dire accélérer, aller aussi vite que possible pour garantir un certain débit, par exemple, en accélérant pas trop fort et en ne freinant pas trop fort, parce que les passagers n'aiment pas ça, et puis en s'arrêtant de préférence juste en face des portes de la station, parce que si on rate, il va falloir une intervention humaine ensuite pour décaler le train, et ça non plus c'est pas toléré par les passagers. Donc voilà, donc la deuxième partie, c'est plus comment bien conduire le métro, et donc là aussi ça fait des logiciels qui sont très intéressants, avec des exigences de sécurité un tout petit peu moindres. Mais ce qui nous sauve d'une certaine manière dans le cas des ferroviaires ou des métros sans conducteur, c'est que c'est un milieu très très contrôlé. D'abord, on avance que dans une direction, on avance ou on recule que dans une direction. Et ensuite, il n'y a pas d'autres métros qui viennent, avec conducteur éventuellement, qui viennent s'immiscer dans le trafic. Et en ce sens, c'est complètement différent de la voiture sans conducteur, de la voiture autonome, qui, elle, est censée s'insérer dans une circulation où il y a principalement des humains au volant et qui réagissent comme des humains, parfois de manière assez agressive d'ailleurs vis-à-vis des véhicules automatiques, et il y a beaucoup plus d'imprévus. Il y a des piétons qui traversent n'importe quand, des vélos qui zigzaguent, voilà. Et c'est pour ça que la conduite d'une voiture autonome reste encore aujourd'hui une question partiellement ouverte. On a fait effectivement d'énormes progrès grâce aux techniques d'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est vision, donc la perception de l'environnement qui est autour de la voiture. L'expérience montre que la voiture sans conducteur ne prend pas toujours les bonnes décisions et a souvent du mal à s'insérer dans un flux de véhicules avec des conducteurs humains. Donc ça reste un problème pas encore complètement réglé. Et ça illustre aussi un peu les limites justement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on peut imiter les compétences humaines jusqu'à un certain point, mais pas encore jusqu'au point où une voiture conduite par une intelligence artificielle conduit exactement comme si c'était un humain.
Et cette distance entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, vous pensez qu'on va la grignoter, que l'intelligence artificielle va gagner du terrain? Et est-ce qu'on peut penser, sans rêver, mais penser à un moment dans le temps où l'intelligence artificielle sera à armes égales avec l'intelligence humaine?
Alors ça, c'est une question réellement ouverte. C'est vrai que les progrès récents de l'intelligence artificielle sont absolument remarquables, en particulier dans la capacité de l'IA à manipuler la langue, le langage humain. L'exemple qui m'impressionne peut-être le plus, c'est la traduction automatique, qui est devenue presque compétitive avec ce que fait un traducteur humain. Alors bien sûr, la traduction n'a pas de qualité littéraire, hein, mais en termes d'exactitude et d'absence de grosses fautes de langage, la traduction automatique atteint des niveaux vraiment satisfaisants, et c'est assez récent, hein, c'est un progrès qui est des 10 dernières années. Après, il y a aussi les fameux systèmes conversationnels, les chats, ChatGPT, etc., qui sont intéressants dans leur capacité à synthétiser des discours cohérents avec des phrases qui s'enchaînent et tout, mais qui sont aussi très limitées parce que il y a beaucoup d'erreurs factuelles, d'hallucinations, comme on dit, d'inventions dans les thèses qu'ils produisent. Et c'est d'autant plus difficile à repérer que le ton général du texte est souvent très affirmatif, c'est un ton autoritatif, c'est un ton qu'ils ont appris en lisant Wikipédia. D'accord. Donc c'est comme si on avait un article Wikipédia, mais qui contenait des fautes toutes les trois phrases. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais en tout cas, c'est un gros progrès. Après, l'intelligence artificielle, elle a toujours progressé par saut et puis par plateau. Donc peut-être on est en train de rentrer dans un nouveau plateau où, bien sûr, on va continuer à développer ces techniques, mais les progrès vont peut-être être plus modestes et attendre peut-être... Il faudra des idées nouvelles, sans doute, pour vraiment aller plus loin. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à égaler l'intelligence humaine ? C'est une question difficile parce que l'intelligence humaine n'est pas bien définie non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement intelligent ? Pendant longtemps, savoir calculer, c'était la prérogative des humains les plus intelligents. Et puis est arrivé l'ordinateur qui calcule mieux et plus vite. Jouer aux échecs, c'était la prérogative des humains les plus intelligents. Bon, maintenant, on a des programmes qui jouent aux échecs qui sont bien meilleurs que les humains, etc., etc. Donc, mais on peut aussi toujours trouver des tâches pour lesquelles l'intelligence artificielle est complètement nulle. Et je pense que il y a aussi des limitations fondamentales à l'intelligence artificielle, par exemple qu'elle ne elle ne vit pas dans un corps, enfin, elle ne vit pas dans un monde physique, d'accord. Elle n'a pas l'expérience sensorielle presque de notre monde, et ça se voit dans les réponses complètement absurdes qu'elle produit souvent. Donc voilà, c'est une question en tout cas qui agite toute la communauté, alors bien au-delà de l'informatique, hein, sur quelles sont les limitations de l'intelligence artificielle et en creux, quelles sont les prérogatives essentielles de l'intelligence humaine.
Alors pour l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas évoquer l'idée qu'elle n'est pas encore mature, c'est comme un enfant qui n'a pas encore grandi et qu'il y a des potentialités de développement, d'élargissement, de mutation. Par exemple, on peut aussi en tant que savant, scientifique que vous êtes, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'adjoindre à cette intelligence artificielle une intelligence en quelque part naturelle avec sensations, réactions, émotions, fureur, rage c'est du cinéma alors, pour le moment, mais état précoce de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut imaginer une dynamique de progrès ?
Alors, le parallèle, effectivement, avec l'enfant qui apprend et qui se développe est intéressant, mais il faut bien garder en tête que les systèmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui sont à base d'apprentissage. Alors, c'est pas le même genre d'apprentissage que ce que fait un enfant, mais c'est de l'apprentissage à partir d'énormes quantités d'exemples, de gros corpus de textes, par exemple. On a cité Wikipédia tout à l'heure, c'est qu'une toute petite partie des textes sur lesquels ChatGPT et autres sont entraînés. En gros, on leur fait avaler à peu près tout ce qu'il y a de disponible sur Internet, même parfois en négligeant les droits d'auteur et autres détails. Donc pour moi, on arrive aux limites de l'apprentissage par les techniques d'apprentissage d'aujourd'hui parce que, d'une certaine manière, ils ont déjà tout vu. La dernière version de ChatGPT a déjà absorbé, d'une manière ou d'une autre, tous les textes disponibles dans notre monde. Alors ça donne un peu le tournis. Alors bien sûr, absorber, ça ne veut pas dire comprendre. Ce que l'IA a retenu de ces textes n'est pas toujours très clair. Mais vous voyez, je suis pas sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les techniques actuelles, celles qui disent bah non, il faut toujours plus de données d'apprentissage, des réseaux de neurones toujours plus gros pour d'une certaine manière retenir de plus en plus de choses de ces données. Et je sais pas en fait si cette approche va pouvoir progresser encore très longtemps. Alors qu'un enfant, on sait qu'il a un potentiel de développement, bien sûr. Par ailleurs, alors, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage de la langue chez les bébés. De manière générale, les humains sont bien meilleurs pour apprendre que les machines, au sens qu'il nous faut beaucoup moins de données, beaucoup moins d'exemples pour absorber et comprendre, généraliser et être capable de faire par nous-mêmes. Alors l'exemple de l'apprentissage de la langue est absolument frappant. Un bébé apprend à parler avec à peu près 3000 heures d'interaction avec avec des adultes, avec des locuteurs. Et dans certaines cultures ou certaines sociétés où les enfants passent peu de temps avec les adultes, ça peut descendre à 1000 heures. Donc au bout de 1000 heures d'interaction, le bébé est capable de commencer à parler et de comprendre ce qu'on lui dit. Et si vous regardez les systèmes informatiques qui répondent à la parole, qui répondent à la voix, comme Alexa, Siri, etc., ils ont été entraînés sur des centaines de milliers d'heures de discours soigneusement annotés et transcrits par des humains. D'accord ? Donc non seulement il faut 100 fois plus de données pour un bébé, mais en plus il faut avoir d'une certaine manière mâché et annoté soigneusement toutes les données, alors que le bébé, lui, il découvre en même temps que le reste du monde, d'ailleurs. Donc, l'esprit humain a quand même des capacités d'apprentissage qui sont extraordinairement économes. Et ça, c'est quelque chose qui manque complètement à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Et donc, sans aller jusqu'à dire qu'il faudra que l'intelligence artificielle ait des sentiments, des sensations, des émotions, je pense déjà qu'il faudra qu'elle ait des capacités de généralisation à partir de peu d'exemples aussi bonnes que celles des humains. Et ça, c'est un problème complètement ouvert.
Et vous avez évoqué, dit que l'enfant est fait de matière. Et le logiciel, où se situe-t-il entre esprit et matière? Quelle est sa place?
Alors, effectivement, bon, quand il est en train de s'exécuter dans un ordinateur, bon, il est quelque part dans l'ordinateur, dans ce qu'on appelle la mémoire vive de l'ordinateur, sous forme de toutes petites impulsions électriques. Donc il a une existence physique, bien sûr, mais comme la plupart de l'information qui est manipulée par l'ordinateur, l'information, elle peut être sous plein de formes différentes, et puis elle peut être écrite sur un disque dur, ce sera plutôt des impulsions magnétiques, et puis quand elle circule sur les réseaux, ce sera dans des fibres optiques, sous forme de lumière, sous forme de photons. Donc l'information, en informatique et en communication, elle change de forme tout le temps, et puis elle est aussi très facile à dupliquer, à reproduire. En revanche, le message, la signification qui est dedans, ce que fait le logiciel, lui, ne change pas, quelle que soit la forme dans laquelle il s'incarne. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le logiciel est beaucoup plus proche des idées, des concepts, des définitions mathématiques, pour revenir sur un parallèle que j'aime beaucoup, des définitions mathématiques, des textes, toutes ces choses qui existent indépendamment du support physique sur lequel ils sont.
Oui. Alors, tout simplement, peut-être conclure en vous demandant votre regard sur le logiciel. Et dans la recherche, la correspondance avec l'accident, le hasard, pour évoquer un progrès pour l'intelligence artificielle, on avait dit que dans l'état de son apprentissage, il y a beaucoup de mémorisation, on lui injecte beaucoup de textes, etc., etc. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le savant qui est aussi rêveur, qui évoque des situations qui n'existent pas, est-ce qu'il y a une possibilité d'évoquer un accident dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, un accident, une mutation, entrer dans un nouveau domaine d'apprentissage? Est-ce que vous y rêvez parfois?
Alors, comme tous les scientifiques, je rêve que ça m'arrive à moi, que j'ai tout d'un coup, effectivement, une espèce d'illumination pour un nouveau, une approche entièrement nouvelle ou une direction complètement nouvelle. Bon, c'est un sentiment qu'on a une ou deux fois dans sa vie quand on est scientifique, et parce qu'il faut quand même bien reconnaître que la plupart des progrès en sciences sont plutôt incrémentaux. Il s'agit d'approfondir des idées qu'on a déjà eues ou que d'autres ont déjà eues. Il s'agit surtout de les confronter à la réalité, donc d'accumuler les preuves que ces idées sont correctes. Donc pour un scientifique, oui, tout le monde, enfin les grandes découvertes scientifiques partent souvent d'un tel éclair de génie, complété ensuite par des décennies de travail acharné. Est-ce que la même chose peut arriver à une machine? Je ne sais pas. On peut toujours espérer par hasard tomber sur quelque chose de génial. Il y a cette analogie que j'aime bien, c'est que si vous avez des milliards de singes qui tapent sur des milliards de machines à écrire, il y en a bien un qui finira par produire un texte littéraire intéressant. D'accord ? Juste par complet hasard. Mais c'est très très inefficace. Et l'être humain est justement très très fort pour guider le hasard d'une certaine manière. Se permettre de rêver, se permettre d'imaginer, mais dans des zones où on sait qu'il y a des idées fertiles qui risquent d'émerger. Donc est-ce que nos intelligences artificielles, genre ChatGPT, vont finir par avoir une idée originale, ou est-ce qu'elles sont contentes de régurgiter des bouts de texte déjà lus ailleurs? J'ai plutôt tendance à penser à la régurgitation, mais on peut toujours être agréablement surpris.
Et aussi, à la barre, il y a l'être humain, puisque vous travaillez, c'est vous qui manipulez, qui travaillez sur ces logiciels, sur cette intelligence. C'est le savant, c'est un couple, et c'est un couple hybride d'intelligence humaine, de rêve humain, etc., puisque vous êtes à la barre, le savant, celui qui travaillait, qui nous fabriquait ce nouveau monde.
Alors c'est vrai, en particulier pour le logiciel plus classique sur lequel je travaille, qui pour moi c'est un moyen d'amplifier d'une certaine manière mes capacités et celles des autres humains. Le logiciel de conduite automatique du métro dont on vient de parler, il applique les bonnes pratiques de conduite qui ont été développées pendant des siècles par des cheminots. Il a rien inventé. C'est plutôt une extension du savoir et des capacités humaines. Et justement, ce qui m'inquiète un petit peu, ce que je trouve désagréable plutôt dans les intelligences artificielles à base d'apprentissage, c'est que la partie logicielle, la partie programmée explicitement, elle est toute petite et plutôt simple, mais tous les comportements ensuite émergent de la rencontre de ce logiciel avec les données d'apprentissage. Et là, c'est beaucoup moins clair de comment est-ce qu'on contrôle tout ça. C'est beaucoup moins clair de savoir qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin, d'une certaine manière. Alors, en échange de cette perte de contrôle, évidemment, on gagne de nouvelles capacités. On parlait de la perception de l'environnement par les caméras des voitures sans conducteur. C'est vrai, quand on essaye d'écrire un logiciel qui explicitement analyse les images pour voir où sont les autres véhicules et tout, ben on n'y arrive pas parce que c'est un problème extraordinairement compliqué, alors que par apprentissage, on obtient des résultats qui sont satisfaisants 95% du temps. Mais c'est aussi une perte de contrôle et un peu une déception pour l'intelligence humaine.
Oui. Est-ce qu'on peut... on va bientôt finir là, mais juste une dernière question, puisque c'est une effervescence de potentialité ouverte sur l'avenir, sur le fait que cette intelligence soit précoce. Est-ce que vous imaginez parfois de donner l'apprentissage du logiciel et de l'intelligence artificielle à un maître qui est logiciel ou intelligence artificielle, c'est-à-dire ne plus, pas contaminer, mais ne plus booster cette intelligence artificielle par l'imaginaire, par l'esprit de l'humain qui est à la barre de ce travail informatique.
Alors, on voit apparaître des tentatives qui vont dans cette direction, en particulier utiliser des outils comme ChatGPT, donc des IA génératives qui produisent des textes, pour leur faire aussi produire des textes informatiques, des textes de programme à partir d'une description en français ou en anglais de ce que doit faire le programme. Et alors ça fonctionne relativement bien pour de petits exemples que l'IA a déjà vu avec dans ses données d'apprentissage ou avec des variations faibles sur des exemples qu'elle a déjà vus. Ça atteint aujourd'hui assez vite ses limites. Bon, les programmes qui sortent sont souvent subtilement faux, donc on peut pas encore se passer d'un regard humain sur le programme. Alors une autre situation où on voit un petit peu ce que vous dites, c'est que ben, de plus en plus, je vous dis, les IA, les grands modèles de langue qui servent pour les IA conversationnelles, sont apprises à partir des données collectées sur Internet, des textes collectés sur Internet. Or, il y a de plus en plus de gens, et même d'entreprises, je pense, qui postent sur Internet des messages produits par des IA génératives.
Voilà.
Il est très vraisemblable que les IA du futur vont apprendre en partie sur des textes produits par les IA d'aujourd'hui. Et alors, est-ce que ça va les aider ou est-ce que ça va être un handicap? Personne ne sait. Moi, j'ai très peur qu'elles apprennent à reproduire les erreurs, que la nouvelle IA apprenne en reproduisant les erreurs des anciennes. Mais voilà. Je pense quand même que si le but de ces IA, c'est d'arriver à interagir avec les humains et de rendre service aux humains, il faut quand même que la base de l'apprentissage soit des informations, des textes, des connaissances produites
provenance humaine.
Par les humains.
Mais rien n'est possible quant à notre évocation de la moralité. De l'intelligence artificielle, et là le territoire est tout ouvert à l'inconnu.
Alors effectivement, c'est un des problèmes les plus difficiles aujourd'hui, pour ces modèles de langue et ces IA génératives, qui est de leur apprendre à ne pas produire des textes offensants. Et ça demande énormément d'interactions avec des humains, justement, pendant la phase d'apprentissage, qui rejettent des textes ouvertement racistes, antisémites, haineux, etc., qu'une IA peut produire sans difficulté aucune. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à apprendre à une IA. Qu'est-ce qui est moralement acceptable et qu'est-ce qui ne devrait pas être dit, ne devrait pas être encouragé. Et sans parler, bien sûr, d'autres dilemmes éthiques qui pourraient se produire le jour où une IA se mettrait à contrôler, contrôler un véhicule sans conducteur, par exemple, et devoir choisir entre écraser une personne ou tuer son conducteur, par exemple, dans un accident. Alors, heureusement, on n'en est pas à se poser cette question, parce qu'on n'a pas encore trop de véhicules autonomes, mais on commence déjà à se poser ces questions de moralité, d'éthique, ne serait-ce que dans les chats, dans les IA conversationnels.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Xavier Leroy, de nous avoir parlé du côté déchiffrement, du côté scientifique et logiciel par rapport à ce livre « Déchiffrement des hiéroglyphes à l'ADN » qui paraît aux éditions Odile Jacob sous votre direction, ainsi que celle de Monsieur Dominique Charpin. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de sciences du logiciel au Collège de France, et que Monsieur Dominique Charpin est professeur lui aussi titulaire de la chaire civilisation mésopotamienne. Merci infiniment, ce fut passionnant. Merci.
Je vous remercie.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. avec C'est Solange. Thank you.